Alors, bienvenue à ce podcast sur l'identité avec vos hôtes Marjorie et Mathieu.
Alors, bonjour à vous. Allô, Mathieu.
Bonjour, Marjorie. Donc, c'est la première série qu'on fait, c'est sur l'identité. Donc, 6 rendez-vous pour questionner l'identité. L'identité sociale, l'identité profonde, l'identité énergétique et de voir comment on peut cheminer au travers ça.
Alors, avec notre série, notre intention, c'est de vous faire vivre un petit parcours, de questionner autant l'identité dans sa facette extérieure pour vous amener de plus en plus à découvrir l'identité intérieure. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va commencer avec le thème « identité sociale ».
Ouh, quel gros projet de jaser de l'identité sociale, parce que on dirait que on a tendance à bâtir notre identité sur cette coquille, cette structure qui est externe à nous. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la raison de l'anxiété profonde que beaucoup, beaucoup de gens vivent, le stress, la confusion, qui, tant qu'à moi, mène jusqu'à la maladie mentale. C'est pour ça que des fois, j'aime ça parler d'anxiété systémique.
Peux-tu définir qu'est-ce que tu veux dire par anxiété systémique avant qu'on continue là-dessus?
Bien, systémique, on pourrait dire qu'il y a l'anxiété qui peut être un phénomène, mais quand on voit que l'anxiété est omniprésente et fait partie du système, là, on pourrait voir qu'on parle d'anxiété systémique, elle est omniprésente et elle est structurée. Donc, en questionnant le malaise de l'identité sociale, on va s'adresser finalement à un malaise beaucoup plus profond. Et c'est une grande aventure.
Je ne sais pas pour vous, auditeurs, qu'est-ce que vous entendez quand on parle de ça. Si ça fait écho en vous, si vous en vivez du stress par rapport à votre place dans la société, par rapport à c'est quoi votre définition de vous-même. Est-ce que justement ça vous stresse de tenter de répondre à des exigences extérieures à vous pour correspondre à des moules? C'est exactement ça qu'on parle en ce moment, de cette pression-là que l'extérieur fait sur nous et la pression que nous, on s'y met pour y répondre. Hmm. C'est un peu ça que tu parles aussi quand tu dis de coquille, hein?
Ouais.
C'est on crée une interface, une coquille qui nous permet d'interagir avec le monde extérieur. Puis dans le fond, cette coquille-là, elle commence avec une carte de plastique. Je ne sais pas si vous voyez que nous, dans notre société occidentale, dès notre naissance, quand on sort du ventre de notre mère, on reçoit notre numéro d'assurance sociale, notre NAS. Mmh. Fait que déjà, il y a une série numérique qui nous est étampée et notre identité sociale par rapport au gouvernement, par rapport aux structures, se crée. Puis après ça, cette identité-là, elle devient précieuse, hein, parce qu'on le sait, on garde ta donnée, il ne faut pas propager ce numéro-là, puis on a notre numéro de référence par rapport à la société.
On s'entend, hein? On vient de naître, puis on a déjà un numéro, et après ça, on a notre carte d'assurance maladie, notre permis de conduire, nos diplômes, nos notes. On reçoit des notes à l'école, puis vite, là, on est identifié à « t'es bon en maths, t'es bon en français, tu devrais aller dans telle direction ». On est vraiment rapidement bousculé dans comment les autres vont nous percevoir, puis comment on est forcé à rentrer dans un moule, mais tellement rapidement.
Mm-hmm. Puis, je sais pas, toi, t'es-tu sorti de ce moule-là en voyageant?
Oui, moi, j'ai eu la chance à l'adolescence de commencer à questionner le moule, puis à vraiment me sentir pas bien là-dedans. Puis ben, à cause de certaines expériences, j'ai été éjecté, on pourrait dire, du moule. Puis j'étais finalement sur totalement une autre quête pour trouver mon identité profonde. Puis, c'est vraiment par après que, quand j'ai recommencé à faire des entreprises, puis les années qui ont suivi, que finalement, j'ai redécouvert mon identité sociale. Puis qu'il a fallu que je fasse face aussi avec la résonance, l'écho, la projection, puis tout ça, tout ce qui venait de l'extérieur. Avant, je connaissais beaucoup moins. Mm-hmm. Mais waouh, j'ai goûté plus à l'anxiété.
Quand tu es revenu de voyage? Ou avant?
Ouais, quand j'ai commencé les entreprises.
Ah oui? Ouais. Ah, c'est drôle parce que moi aussi, quand j'étais jeune, c'est par le voyage que j'ai commencé d'abord à challenger le concept d'identité. Je chantais pas que je fitais même au primaire puis au secondaire à l'école. Fait que c'est en allant dans un premier voyage d'entraide humanitaire que là, moi, je me suis rendu compte qu'on vivait vraiment dans une bulle parce que les gens qui vivent dans des camps de réfugiés ou dans des pays plus appauvris, tu peux me le dire, Mathieu, je sais pas, même vous qui nous écoutez, vos référents de voyage, mais quand on rencontre des peuples qui vivent pas en relation avec les structures, ben eux, ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de stress à aller à l'école. Leur nom ne vient pas de la lignée familiale, mais ils ont tout un système culturel qui honore l'identité d'une autre façon. Et moi, je sais que quand j'étais revenue de là, ça avait été un choc, un grand refus de performer à l'école. J'étais une super bonne élève, mais il y avait vraiment une dichotomie à l'intérieur de moi entre performer, être ça, puis être qui j'étais. Puis moi, ça passait par plus un épisode trash, l'adolescence, la rébellion, justement, cette crise-là où on dit « Non, tout ceci n'est pas moi.
» Ouais, mais tu vois, quand moi j'ai voyagé, j'ai été surpris de voir aussi, ben, tu sais, j'étais en quête identitaire, évidemment, mais peu importe où c'est que j'allais, je voyais bien que les peuples sont aussi identifiés souvent à leur nation, à leur pays, à leur famille, à leur religion. Les Italiens sont pris là, dans l'idée d'être italien. Les Hindous sont pris dans leur religion, dans leur tradition, dans leur rituel. Ils s'identifient à ça. Même chez les chamans, dans le fond de la jungle, où c'est qu'on a l'impression, ah, OK, il va avoir une identité vaste. Non, ils sont quand même relativement pris dans leur karma de tribu, dans leur façon d'être. Ils ne peuvent pas être autrement à ce moment-là. Donc, je vois que chacun, à notre mesure, à différentes places, on est tous pris dans nos carcans. Mm-hmm. Mais ce que tu pointes, c'est intéressant, c'est que quand on pense que le carcan dans lequel on était mis quand on était jeune est valide, puis qu'on voyage, puis qu'on voit, ah, il y a d'autres boîtes, il y a d'autres façons de voir le monde. Là, on fait, ah, peut-être que j'ai la liberté de réactualiser, de challenger ce carcan-là, cette boîte-là, cette identité-là.
Mm-hmm. Puis ça fait résonner en moi que, justement, par rapport à ces peuples-là, oui, ils ont des histoires aussi personnelles, ils ont des drames, ils ont des mémoires culturelles qui justifient aussi une partie de leur existence. Je me rappelle, dans des drames au Nicaragua ou plus tard ailleurs en Afrique, les gens restent dans leur mémoire, pas juste dans les rites, comme tu parles, dans leur religion, mais dans leur mémoire. Puis la mémoire personnelle est aussi une construction, une façon de construire une identité sociale pour exister.
Ah ben oui. Uh-huh. Moi, je me rappelle, j'étais dans des kibbutz en Israël, où c'est que ça convergeait plusieurs nationalités, plein de jeunes qui voyageaient, puis t'es le Canadien. Lui, c'est l'Australien. Lui, c'est... Hein? On est rapidement étiqueté. Mm-hmm. Puis là, on voit, ah, ben, l'Israélien, c'est-à-dire ça, 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 ça. Et là, parce qu'on le voit avec toute notre idée de son identité, on lui projette cette identité-là. Et lui, il faut qu'il y réponde d'une certaine façon. Puis là, c'est comme un jeu de projection, un rétro-projection. Puis on, peu à peu, comme ça, on cristallise une forme de personnalité, une persona, puis on devient un peu au piège de cette coquille-là. Mm-hmm. Puis on voit bien, là, aujourd'hui, quand on va travailler ou quand on est dans le monde, tout le monde tient et est supporté par cette coquille-là. Et c'est vraiment dur, des fois, de rentrer en contact avec ce qu'il y a en arrière. C'est en arrière, ce qui vibre en arrière de cette identité sociale-là qui nous coupe un peu de l'essentiel.
J'ai un peu l'image de la coquille. C'est un peu comme un œuf de Pâques, là. Okay? Supposons que tu es un petit poussin qui naît dans une famille de poussins bleus. Ben, ta coquille, à l'extérieur qui va être projeté, ça va être un bleu, puis toi, en dedans, tu fais bleu. Ben, ça se peut que ça soit un bon match, tu sais. Imagine, t'es un petit poussin arc-en-ciel, tu nais dans une famille de petits poussins gris. Puis eux, ils te projettent du gris. Mais toi, en dedans de toi, t'es un poussin arc-en-ciel. À un moment le gris, il va t'étouffer. Fait que tu vas te dire, ben, OK, je vais partir en voyage, je vais aller voir autre chose. Mais là, tu découvres juste des jaunes, des oranges, des ci, des ça. Fait qu'ils vont te donner des éléments, ils vont te donner des coups de peinture pour aider à révéler ton arc-en-ciel, mais tu vas chercher jusqu'à temps que, à un moment donné, tu ne cherches plus à l'extérieur et que tu cesses de te nourrir de ces projections-là, mais que tu perces la coquille, puis là que tu trouves en dedans ce qui était là depuis le début.
Ah ben là, là, on commence déjà à toucher à la notion d'identité profonde, cette identité-là qui émerge de l'intérieur.
Mm-hmm.
Et pourtant, on est encore en train de se battre avec le manteau gris
mm-hmm.
qu'on se force à porter. On se force à porter le manteau gris de l'identité sociale parce qu'on veut correspondre, on veut fitter dans la société. Il n'y a rien de pire que d'être un exclu, hein, vu que l'humain, on est quand même des animaux grégaires. On a besoin d'être accueilli par la famille, accueilli par la société, puis de fonctionner en tribu. Mais que quand on sent de l'intérieur que, oui, on appartient à la tribu, mais en même temps, pas nécessairement cette structure-là, cette vieille structure-là de grisaille, où je sais qu'on mélange toutes les couleurs ensemble, ça fait du gris. Puis on n'est pas nécessairement à l'aise là-dessus. Cette ancienne structure-là de la société est en train de craquer, est en train d'être mise à toute épreuve, là, évidemment, là, par la conscience qui s'élève. Mais on est encore en train de vouloir correspondre, d'être entendu, d'être respecté, d'avoir des likes. D'avoir des likes de qu'est-ce qu'on est, de qu'est-ce qu'on propose, de qu'est-ce qu'on dit. Comme si la valeur que les autres devient plus importante que la valeur qui émerge de nous-mêmes. Hey, on s'entend-tu que ça, il n'y a rien de plus anxiogène?
Mm-hmm. Parce que tout le monde le pressent un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille. Ah. Hein, le petit poussin, comment qui est né au départ. Mais c'est vrai, comme tu dis, qu'on vit toutes sortes de sentiments d'abandon, de rejet, d'exclusion quand on est... Le moindrement, c'est pas une question de quantité, mais on est toujours affecté d'une certaine façon par l'extérieur. Puis c'est ça que tu pointes. Puis ça crée une tension parce que vu qu'on est quand même dans un moule extérieur, dans une couleur, dans une nation, dans une mémoire, il y a toujours une espèce de jeu de va-et-vient avec ça. Puis c'est ça que tu dis, dans le fond, que ça crée le malaise.
Oui, parce qu'on sent qu'on ne peut pas correspondre,
mm-hmm.
mais qu'on est obligé de correspondre.
C'est un peu ce que tu disais, excuse-moi, je t'interromps, mais quand tu as recommencé à faire des entreprises, puis c'est là que ça t'a encore plus punché. Tantôt, tu as dit ça, tu te rappelles?
Oh oui.
Ouais, tu sais, c'est un peu ça que tu décris. Veux-tu nous le dire? Qu'est-ce que tu as vécu quand tu es revenu? Tu sais, il me semble...
C'est sûr que quand je suis revenu de mes premiers voyages, jusqu'à j'avais fait un shift profond vers l'intérieur, puis que je m'étais assis dans mon identité intérieure, c'est sûr, mes parents, ils m'ont pas reconnu. Mes amis ont eu peur que je devienne fou. Puis, dans le fond, j'ai continué à voyager pendant longtemps. Puis, j'étais plus reconnu dans des cercles de moines, de monde qui était vraiment engagé dans la méditation, dans le monde de la permaculture, dans des mondes alternatifs. Mais, tu sais, mon identité a commencé à jouer un peu avec ce monde alternatif-là. Mais encore là, à l'intérieur, je me sentais pas dans cette gang-là, non plus. Je sentais comme une plus grande liberté là, à l'intérieur. Mais vraiment, quand j'ai commencé à fonder des entreprises, là, bon, là, il fallait aller à l'école, il fallait aller avoir des papiers,
la banque, tout ça.
Exact.
Il fallait que tu reviennes avec ta carte de numéro d'assurance sociale.
Oui, prendre des assurances, aller voir. Waouh, là, c'était tout un autre game. Là, c'est comme si... On rentrait dans la structure sociale, puis il fallait correspondre à ça. Bon, je m'inquiétais pas, je me disais, bon, c'est un jeu, jouons le jeu. Puis j'ai vu arriver, maintenant, comme une forme de ah, oh, ok, t'as pu, je suis rendu coincé un peu là-dedans, tu sais, j'ai-tu la liberté, là, de m'en aller, de me réinventer complètement. J'avais fait ça, là, en 99, là, j'étais parti en Écosse, puis j'avais travaillé en Écosse. Puis, mon intérêt, c'était de voir si je pouvais me réinventer. Fait que, dans le temps de le dire, je m'étais retrouvé une job, une copine, un appartement, un nouveau cercle d'amis. Puis, je recommençais une vie où c'est que j'étais Mathieu 2.0, d'une certaine façon. C'est que personne ne te connaît. Mais tu deviens comme... Il y a une liberté fascinante dans le voyage. Tu sais que tu peux, à chaque fois que tu t'en vas puis que tu arrives à quelque part, te redéfinir complètement. Parce que personne ne te connaît. Fait que tu peux bien changer de nom, personne ne va le savoir. Fait que moi, je trouve ça fascinant. Bon, une fois que ça a été expérimenté, OK, bon, je continue à voyager, puis
de continuer à voyager parce qu'en dedans de toi, c'était pas nécessairement ça que tu sentais non plus.
Non.
C'était juste un jeu, là.
Parce que là, je changeais de côte, je changeais de manteau gris.
Par-dessus ta coquille, c'est
Ouais,
ça.
j'avais
Puis
pas.
t'allais chercher d'autres couleurs, c'est ça que tu veux
Ouais.
dire?
J'expérimentais d'autres couleurs dans mon identité
C'est
sociale. Mais je n'avais pas encore mis le doigt sur mon identité profonde.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. En voyageant, tu t'es expérimenté ça, cette liberté-là de te redéfinir. Puis quand tu disais tantôt, ça m'a interpellé, là, tu étais revenu d'Inde, ta famille, elle t'avait pas reconnu. Puis ça l'avait choqué. Moi aussi, j'ai vécu ça quand j'étais revenue de voyage, puis quand j'avais fait mes formations de yoga, de tai chi au tout début, j'avais tellement changé ma coquille que quand mes parents pensaient que j'étais dans une secte.
Oui.
Et puis là, c'est ça que ça a fait aussi, l'espèce de malaise que la famille et les cercles d'amis, eux, sont restés dans une même couleur identitaire sociale. Fait qu'ils ne me reconnaissaient pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas une signature énergétique. Puis moi, je ne voulais plus correspondre nécessairement à ça. C'est comme, ben non, Marjorie, c'est plus l'artiste. Marjorie, elle ne joue plus de la musique. À ce moment-là, là, j'ai d'autres intérêts. Puis c'est juste ça, de comprendre que j'avais d'autres intérêts, d'autres avenues possibles dans ma vie. Et c'est comme si, hein, t'es plus l'artiste qu'on a connu, t'es plus ci qu'on a connu. Ça crée des chocs, voire même des chicanes. Hein? Cette non-compréhension-là. Aujourd'hui, ben, il y a une acceptation parce que c'est comme si c'est devenu mobile, puis, tu sais, les cercles ont bougé, les amis, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Fait que la société autour de moi, elle a bougé avec moi, un peu comme toi dans ton voyage en Écosse.
Évidemment, il y a des phases de crise où ce que ça jure. Mais moi, j'aime ça revenir sur l'anxiété systémique. Que c'est parce que on est constamment forcé à jouer des rôles, puis que à l'intérieur, on n'aime pas ces rôles-là. On aimerait ça comme pouvoir continuer à explorer l'expansion, la transformation, l'évolution de notre identité profonde. Puis, vu qu'on veut tout le temps correspondre, on est toujours en train de se juger. Est-ce que je corresponds? Oh, est-ce que j'ai bien fait? Oh, est-ce qu'ils vont me juger? Ah, oh, est-ce qu'ils vont me rejeter? Ah, oh, est-ce que je vais être accepté? Puis tout ce blabla intérieur-là engendre comme un malaise de fond. Puis pour moi, genre, tant qu'on ne questionne pas cette relation-là qu'on a à notre identité sociale, on vit souvent dans l'inconscience un stress très très profond parce qu'on est déconnecté. On est comme forcé à être déconnecté de notre puissance, de notre bonté naturelle, de notre lucidité naturelle. Parce que c'est la bonté, la puissance, la lucidité, elle vient à partir de l'identité profonde. Elle ne sera jamais bâtie sur l'identité sociale, extérieure. Fait qu'on vit, mais il y a beaucoup de monde qui ne sont pas conscients du fait que le malaise vient beaucoup de là. Et quand on commence à gratter ça, on s'aperçoit qu'on est tous un peu schizophrène, qu'il y a une dualité entre l'extérieur puis l'intérieur, puis que la seule chose qui va guérir cette dualité-là, ben, c'est l'authenticité, cette capacité-là d'assumer, d'être totalement authentique entre qu'est-ce qui vit à l'intérieur puis qu'est-ce qu'on propose à l'extérieur sans avoir peur d'être rejeté et jugé. Hey, mais ça demande de la force, hein.
Ouais, mais moi, ce que je vois, c'est comme quand on est enfant, on le fait directement. Si t'as pas le goût de donner un bec à mon oncle, tu me donnes pas le bec à mon oncle. Si t'as le goût de jouer avec un enfant, puis t'as plus le goût de jouer 2 secondes après, c'est instinctif. On faisait ça quand on était jeune. Hop, je m'en vais, l'ego, ça m'intéresse plus, je vais aller danser. Puis là, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on perd cette mobilité-là intérieure? C'est justement, à un moment donné, la famille dit, non, non, non. On s'en va, on va donner le bec à mon oncle. Mais oui, mais moi, dedans, j'ai pas envie. T'es là, petite fille de 2 ans, j'ai pas envie, non. Non, mais faut être ça, papa. Puis là, c'est là qu'on commence, justement, à
Dis
correspondre.
merci,
Dis merci.
s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Puis là, tout de suite, on est forcé à rentrer. Ouais, mais pourquoi je dirais merci? Il vient de me le donner. Mais, hein? Il me le donne. Merci. T'es. Ok, je le prends, puis je m'en vais, puis je suis content. Mais toute cette
C'est ça.
sociabilisation.
Puis c'est des règles de politesse. Fait que c'est ça, dès là, c'est très jeune, là, dans notre être, là, c'est quoi? C'est 3 ans, c'est 5 ans, l'âge de la sociabilisation, là, avec les adultes et tout, on commence à aller à l'école. Donc, c'est là qu'on commence à correspondre à l'extérieur. Et dans le fond, quand tu dis, Mathieu, de questionner, là, cette tension-là, puis voir où vient notre anxiété, je me dirais, est-ce qu'on est game, là? Tout le monde a retourné comme quand on était libre, enfant, comme ça. Est-ce qu'on a cette liberté d'être-là? On va voir que, oups, des fois, ben...
Ouh! Ben, c'est pour ça, on dit, c'est un processus. Mm-hmm. C'est un processus, c'est pas évident. Surtout quand on sent que derrière la coquille, ben, il n'y a pas encore de poussin, que c'est encore un jaune d'œuf.
Mm-hmm.
Que c'est protoiforme, que c'est pas formé. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on va voir dans cette saison-ci, c'est comment transformer le jaune d'œuf en poussin. Comment le poussin va se nourrir du blanc d'œuf. Comment le poussin va devenir suffisamment fort de l'intérieur pour se libérer de la coquille, devenir un jeune poulet. Et éventuellement devenir un coq ou une poule bien mature et heureuse. T'sais. On vit comme dans des œufs en tant que jaune d'œuf. Pourtant, on pressent à l'intérieur ce potentiel-là d'être un oiseau. Pas nécessairement une poule, mais peut-être.
Mais peut-être qu'on va faire un hybride, en fait. Parce que quand on est rendu dans la connexion, peut-être qu'on va faire pousser des ailes sur notre poule puis d'autres types de pattes, on sait pas.
La métaphore de la poule est un peu boiteuse, mais peut-être qu'on est un aigle, tu sais. Mm. Peut-être qu'on est un œuf de d'autres choses, tu sais. Mais le fait, c'est qu'au début, l'œuf... C'est comme il y a un effort intérieur, de développement intérieur. Puis ça prend du temps, ça, de transformer le jaune en fœtus, de transformer le fœtus en bébé prêt à sortir. Bon, ça, c'est la quête de l'identité éthérique, l'identité profonde, le développement de l'être intérieur. Mais pour l'instant, juste de se tourner puis de questionner le manteau gris qu'on est forcé à porter. Puis juste accepter que c'est pas confortable. Accepter qu'on est souvent les trois ou étouffés dedans. Puis à commencer à voir, OK, où c'est qu'il y a le zip du manteau? Où c'est qu'ils sont les failles? Puis qu'est-ce qui induit ça? Mais juste le voir. Puis de voir, des fois, c'est inconfortable de voir en soi. Mais asseyez-vous dans le métro. Regardez les gens. Asseyez-vous dans le public. Regardez les gens qui sont coincés. C'est d'une tristesse infini, de sentir cette anxiété-là de fond, des fois des yeux vides, des fois des habitudes complètement déconnectées, puis de ressentir ce vaste malaise-là, de la perte d'identité. Il y a une perte d'identité, on se rattache, c'est là qu'on va se rattacher à toutes les bouées, de diplômes, de travail, de famille, de nation, etc. Mais puis là, on va continuer à cristalliser une société qui perd son identité.
Si vous avez la chance de développer votre écoute, regardez qu'est-ce que toutes les gens font pour juste tenter de correspondre à quelque chose. Comment ils se mettent la pression à aller chercher des diplômes à l'université alors qu'ils ne veulent pas nécessairement avoir leur diplôme, mais pour avoir tel job, pour avoir tel salaire ou pour avoir telle subvention. Écoutez les histoires extérieures. Après ça, écoutez l'histoire que vous vous racontez.
Ah, c'est là que ça sert l'exercice. Hein? De s'amuser, d'observer. Parce que c'est facile de voir chez les gens. Puis après ça, de faire, oh, OK, je suis ces gens. Je suis cette personne qui se cherche aussi.
Mm-hmm. Puis si vous voulez jouer à un jeu, ben imaginez qu'est-ce que ça ferait de brûler votre carte d'assurance maladie, de brûler vos cartes bancaires, même de brûler votre numéro d'assurance sociale. Qu'est-ce que ça ferait pendant un instant brûler tout ça?
Oh my God, c'est comme un suicide social.
Moi, je m'étais imaginée à me mettre dans cette position-là. Puis c'est sûr qu'en étant ici au Québec, exemple, je me suis dit, ben là, je ne pourrais plus aller justement faire des prêts bancaires pour des projets ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, je me suis imaginée ça en plein moment où j'étais avec une tribu en Colombie. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, je pourrais vivre ici. En pleine nature, etc. Dans cette tribu-là, j'ai pas besoin de tout ce bagage-là social pour vivre avec eux. Mais quand je suis revenue, par exemple, ben j'ai dit, ah, il faut que je choisisse de le réemprunter, ce bagage-là, si je veux revenir ici.
Moi, je m'étais dit la même chose quand j'étais en Inde. J'étais comme, oh my God, je brûle mon passeport, j'appelle ma mère, j'ai dit que je ne reviens pas, puis je continue, là, libre, l'autre côté. Mais évidemment, l'impulsion est plus d'être dans le monde.
Mm-hmm.
On a cette amie-là, là, Guylaine Langto, qui a vraiment, elle a été au bout du processus, elle s'est vraiment fait un suicide social. Là. Mm-hmm. Guylaine Langto est rendue Jess. Elle a beaucoup brassé. Dans le fond, je pense que moi, j'ai toujours vu ça comme un exercice de conscience presque artistique, là, de mm-hmm. faire une démonstration que hey, je ne suis pas ce numéro, je ne suis pas cette compagnie qu'on appelle mon nom. Tu sais, puis elle s'est libérée de ça, bon, avec tous les désavantages que ça a d'être dans mm-hmm. la société sans ce support-là.
Mais elle est allée au bout, au moins.
Oui,
elle a vraiment fait une représentation, comme tu dis, toi tu dis artistique, là, mais c'est vraiment comme un coming out. Là. Hey, on peut vivre sans ça. Ouais. Elle a brassé beaucoup de choses avec son parcours.
Oui, oui, oui. Elle s'est retrouvée en prison. Il l'appelait, elle ne se présentait pas. Elle se dit, ben non, je ne suis pas Guylaine Langto.
Je suis Jess.
Ouais, elle a du front. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'elle a réussi à bouger. Moi, ce qui fait, puis dans le fond.
Ce que nous, on veut dire, c'est que vous, dépendamment de ce que vous avez à faire en tant qu'identité profonde, qu'on va soulever dans les prochains podcasts, ben, il y en a qui font des propositions comme ça. Là. Il y en a qu'on connaît, là, qui vivent sans argent en ce moment, qui nous ont écrit dernièrement, puis qui disent, ben, moi, j'ai réussi à faire ça. Mais eux, c'est. Comment je peux dire, c'est leur représentation, c'est leur part dans le monde. C'est toi, comme tu dis, tu avec la création d'entreprise, puis pour nous aussi, moi, je le sentais à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas aller aussi loin que Jess. Parce que, exemple, je le sens très bien que dans mon chemin, je vais voyager, donc je ne peux pas rejeter mon passeport. Mais juste le fait de l'avoir imaginé, de m'être mis dans cette posture-là, je me rappelle, ça avait shaké, puis ça m'avait libérée, parce que j'avais vraiment, comme au niveau au moins, je pourrais dire, idéologique, psychologique, puis énergétique, brûlé mes cartes. Après ça, que je m'en sers dans ma réalité matérielle, ben ça ne change rien, parce que je ne sais que ce n'est pas moi.
Ben voilà, ça, c'est la game.
C'est ça.
D'être capable d'embrasser son identité sociale, mais à partir d'un ancrage identitaire intérieur, où c'est qu'on ressent, où c'est qu'on vibre, où c'est qu'on accueille sa couleur, son esprit, on pourrait dire. Mais de vivre dans les deux. Nous, on sent que c'est ce qu'on fait avec la géosophie, on veut être dans le monde. Ben, il faut quand même jouer un peu la game. Mais en même temps, on la joue avec une autre qualité de présence qui nous amène à questionner la game dans laquelle on joue. Puis on s'amuse beaucoup avec ça. C'est vraiment intéressant.
Ouais. Ben, une chose qui est sûre, c'est que quand on a fait ça, on a une paix en dedans de nous.
Ouais.
Ouais, moi, je suis plus stressée, je suis plus anxieuse, je me sens plus rejetée, ni rebelle, etc. Il y a vraiment une paix d'avoir fait ces exercices-là puis ces passages-là. Dans le fond, c'est l'invitation qu'on faisait.
Oui, pour sortir de cette anxiété systémique, c'est de se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur. On va creuser dans les prochains podcasts, évidemment, à ça. Mais moi, j'aimerais ça souligner que dans le processus, il y a différentes étapes. Moi, je l'ai vu dans mon étape, dans certaines de mes étapes, où c'est que j'étais dans différents groupes spirituels. Qui avaient des identités différentes et comme une forme de liberté. Mais pour rapidement m'apercevoir qu'on se reprojetait constamment aussi en tant que groupe fermé, en tant que groupe spirituel, appartenant à une telle tradition, puis utilisant tel vocabulaire comme un peu ésotérique. Là, finalement, on créait quelque chose de beaucoup plus fermé que certaines personnes dans la société qui sont beaucoup plus accueillantes de la couleur puis de l'opinion de chacun. Les groupes spirituels ont des fois cette force-là de nous propulser dans un monde intérieur, mais des fois vont cristalliser une identité spirituelle qui nous limite. C'est très paradoxal. Il faut vraiment faire attention aujourd'hui. Puis c'est là que des fois on se retrouve avec de l'abus parce que les personnes qui perdent leur identité au travers des processus comme ça se retrouvent fragilisées et plus faciles à manipuler, etc. C'est pour ça que nous, là, on est vraiment comme fortifier votre identité, retrouver votre je, cette force intérieure, cette puissance qui fait que vous êtes capable de confronter, dialoguer, questionner, critiquer à partir de votre ressenti. Ça, là, c'est, il n'y a rien de plus précieux. Puis on ne pourra pas participer dans des projets collectifs sans cette identité forte-là. Sinon, on va se perdre tout le temps dans le groupe, puis on va se demander qui qu'on est, puis tôt ou tard, on va rejeter le groupe parce qu'il va nous avoir trop teinté. Ah, on a goûté à ça, à différentes entreprises. Mais c'est pour ça que là, 2020, on est comme, OK, guys, votre identité, votre alignement, votre puissance. Puis là, mon Dieu, qu'on va tellement avoir plus de fun ensemble, hein? C'est tellement essentiel. Tu sais, dans le comment continuer à progresser là-dedans, moi, j'aimerais ça souligner le fait que, tu sais, de ressentir. Parce que, tu sais, c'est facile, là, tu sais, on jase, c'est des idées. Mais, tu sais, on sait bien, hein, que dans le fond, c'est le cas de ressentir à l'intérieur notre identité, puis d'être capable de voir quand on nous projette des choses, d'être capable de le questionner. C'est-à-dire, hey, ça me correspond-tu, oui ou pas? Puis de réajuster, de dialoguer avec les gens à partir de cette fréquence-là intérieure.
Mm-hmm. Maintenant que j'ai le goût de faire comme une synthèse, là, tu sais, juste pour comme se diriger vers une conclusion. C'est comme de se mettre dans la peau du poussin à l'intérieur de la coquille, là. OK? Premièrement, par votre ressenti, vous allez savoir c'est quoi votre couleur. Puis plus votre je va être là, aligné comme un corps solide, puissant, ce que Mathieu disait à la fin, bien plus vous allez le voir arriver, ce qu'on vous projette. Puis là, vous allez ressentir, c'est là que vous allez faire le ménage. Vous allez ressentir qu'est-ce qui... On dit oui, qu'est-ce que vous dites non? Puis après ça, bien, vous allez voir les autres, tu sais, dans l'exercice d'observation, vous allez voir les autres, hein, ils sont-tu pris dans leur coquille? Ou ouf, ils sont complètement harassés parce qu'on leur projette, puis c'est pour ça qu'ils sont stressés. Puis là, vous allez peut-être avoir même la compassion en voyant ça, vous dire, ah, oh, OK, c'est ça le jeu. Puis de là, le ramener sur vous, parce qu'il y a des parties de vous, c'est clair, qui sont dans le même jeu. Fait que vous offrir ce même état d'accueil. Puis là, après ça, dépendamment de où est-ce que vous êtes, là, soit que vous allez jouer à vous dire, OK, ben qu'est-ce que ça fait si j'ai pas d'identité? Qu'est-ce que ça fait si je suis dans la peau d'un voyageur? Ou peut-être vous serez même prêt à passer à l'action en challengeant des groupes dans lesquels vous êtes. Soit des groupes à votre travail, des groupes d'études, des groupes spirituels, des groupes sociaux, des clubs de sport. Bref, c'est infini ce que vous pouvez challenger pour voir, vous, si je me tiens drette là-dedans, puis que je suis vraiment attune avec qui je suis, si vous, vous acceptez qu'est-ce que ça fait à l'extérieur et êtes-vous prêt même à rester droit face à cette réaction? Puis bien sûr, ben, l'invitation, c'est ben, si vous tenez vraiment votre corps identitaire, vous allez rester droit dans cette réaction-là, un peu comme dans les histoires personnelles qu'on vous racontait. Puis faites confiance qu'à un moment donné, ça va bouger puis que l'extérieur va complètement résonner avec ce que vous vibrez en dedans. Et dans le fond, plus on questionne l'identité sociale, plus on va se ramener vers en dedans et vice-versa. Et c'est là que j'ai déjà hâte qu'on se retrouve.
Oh my God! Parce que là, on va pouvoir se dire, OK, quand je me ramène vers l'intérieur puis que je veux faire évoluer mon jaune d'œuf vers le poussin, comment développer son identité intérieure?
Mm-hmm.
Mm, parce que c'est le fun d'avoir un corps, mais là, c'est juste le zygote. C'est juste le tortillon. Mais là, il faut se développer. Il faut se développer des os. Il faut se développer un cœur. Il faut se développer de l'intérieur. Puis ça, c'est toute la construction ou la révélation du corps éthérique, du corps d'énergie, la conscientisation de nos différentes couches intérieures.
C'est justement ce que tu pointes, là, Matt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation qui sont faites pour nous enseigner comment bâtir notre corps intérieur.
Mais non, on nous demande, par exemple, comment tricoter ou réparer notre côte, notre manteau gris. Comment faire que notre manteau gris, on y met des batchs dessus, puis qu'on devient de plus en plus puissant socialement, puis dans une identité sociale.
Puis que justement, si tu ne fites pas dedans, on va te donner des antidépresseurs.
Voilà.
On va te donner des pilules, on va te donner tout ça, mais ça ne règle jamais la question comment faire grandir ton monde intérieur.
Moi, j'ai l'impression que toute cette question-là, là, c'est traiter la maladie, pas la maladie mentale, mais même la maladie spirituelle. De dire, hey, quand on est déphasé à ce niveau-là, ben, toutes les croyances sont déphasées au niveau mental. Après, toutes les émotions sont conflictuelles au niveau émotionnel. Notre plan énergétique est complètement... il circule pas super bien, évidemment, et ça va engendrer de la maladie dans le plan physique et évidemment de la maladie dans le plan social. Parce qu'un individu désaxé, confus dans son identité, va engendrer et continuer à nourrir cette société-là qui nous désaxe.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment... Mais quand on revient vers cette question-là d'identité, on a le potentiel d'ouvrir un lien spirituel autonome, souverain, authentique avec nous-mêmes.
Mm-hmm. Puis c'est ça qui fait qu'on va guérir la société, puis qu'il va y avoir moins d'enjeux mentaux, moins d'enjeux de pilules, moins d'enjeux, etc. Vous savez, de tout ce qu'on inclut là, dans ce qu'on parle en ce moment.
Ouais.
Donc, j'ai le goût de respirer.
Donc, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Voilà, j'espère que ce podcast vous a fait réfléchir ou chatouiller les neurones. Ça va être un plaisir de continuer. Merci, Marjorie, de se prêter au jeu comme
Merci,
ça.
Merci, Mathieu, du partage.
À bientôt!